Certains cerveaux s'emballent, certaines émotions débordent et certains corps s'épuisent à tout contenir. Audrey Kalvikowski propose des accompagnements sur mesure pour les hypersensibles, HPI et TDAH, qui veulent s'aligner sans s'abîmer. Sensation, ouverture, intuition, trois étapes clés de sa méthode pour transformer l'intensité émotionnelle et l'ébullition mentale en intuition actionnable. Partage de femmes, c'est une femme et des partages individuels et de groupe, ainsi que des ateliers et des séjours dans les Pyrénées. Parce que nos émotions nous donnent des ailes, retrouvez Audrey sur Instagram, partage de femmes 64.
Envie de doper ton cerveau sans y laisser ta peau?
Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois!
Ben, je me vois.
Ah, tu te vois!
Envie de booster ton quotidien? Tu es au bon endroit. Bienvenue dans DTC, l'émission qui remue tes méninges et stimule tes cellules.
Tu veux que je te dise ce que je vois à moi? Un type fier! Un type fort! Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds!
Le dimanche à 20h30 sur Pontac Radio, tu dynamises ton passage à l'action.
Tu vois tout ça, toi?
Yeah, man!
Yeah man, bonsoir à tous, amis Bernais, Bernaises, de retour dans DTC. Salutations à Julien.
Salutations Audrey, ça va très bien. Cet hiver, j'ai envie de dire, parce que je me caille en ce moment. J'ai le froid dessus ce soir.
Ben, peut-être que l'hiver approche, hein, effectivement. Il y a deux semaines, on a exploré le perfectionnisme en développement personnel. Il existe pas mal de syndromes et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette émission car je compte bien vous faire un petit topo des différents syndromes justement qui peuvent nous éloigner des fois de nos réussites et j'entends ici des réussites au sens large, très très large ou petites réussites. Moi je me rappelle m'applaudir quand je faisais mon linge après le cancer ou juste faire une machine, c'était déjà une réussite.
Victoires.
Exactement, des petites victoires du quotidien. Donc il n'y a pas de petite ou de moyenne réussite, il n'y a que des réussites et on a vu donc le syndrome du perfectionnisme et ce soir le thème exact, c'est syndrome de l'imposteur. Comment en faire un moteur ou un frein? En réalité, c'est un syndrome qui revient extrêmement souvent, notamment dans le milieu professionnel, mais parfois même aussi au sein du couple. Donc vous allez voir, on va un petit peu balayer ce syndrome, ce qui peut être un vrai problème et un vrai frein dans nos quotidiens. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai la chance vraiment d'avoir croisé de nombreuses personnes au cours de mon histoire et toutes ont déjà connu ce syndrome. Être une imposture, la peur de ne pas être vrai, de ne pas être authentique et donc celle de ne pas être crue dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font naître, dans ce qu'elles émettent, dans ce qu'elles font. Et vraiment, ça, c'était pour moi une évidence que ce thème devait être abordé dans cette émission. J'espère, en tout cas, c'est mon intention qui vous apportera des éclairages, des prises de conscience et pourquoi pas des réponses pour que vous puissiez...
Dur à conjuguer, ce verbe pouvoir.
Que vous puissiez en vous la force de vous détacher de ce syndrome. Et on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller dans ton cerveau et on va voir qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur.
Tout de suite, on se rend DTC dans ton cerveau.
J'aimerais bien nager tranquille, l'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça?
On explore ensemble l'océan de tes pensées dans DTC.
Qu'est-ce que t'as?
En exclusivité sur Pontac Radio.
Arrête de me coller aux nageoires!
Alors le syndrome de l'imposteur, on en parle beaucoup ces dernières années avec le dev perso, avec son essor depuis le confinement je trouve principalement. Et bien là, en fait c'est un syndrome qui date des années 78, de 1978. Ça a été repéré par deux psychologues américaines et cliniciennes qui s'appellent Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin sur le sujet. Elles ont observé dans leur pratique des femmes brillantes qui, malgré des réussites objectives, ressentaient une peur chronique d'être démasquées comme des fraudeuses. Ces femmes attribuaient leur succès à la chance, au travail excessif et à la manipulation, c'est-à-dire le fait d'avoir trompé les autres sur leur réelles compétences en fait. Ces deux psychologues, elles ont forgé le thème Impostor Phenomenon. Voilà, je le dis super bien.
Qu'on traduira en français dans le texte par syndrome de l'imposteur.
Exactement.
Oh là là.
Et elles ont insisté sur le caractère psychologique et émotionnel plutôt que psychiatrique, puisque, comme je vous le disais la dernière fois, pendant très très longtemps, la santé mentale, l'handicap et tout ça, c'était un peu fusionné en fait. Voilà, ouais, la maladie, ouais. Alors que finalement, on voit bien qu'il y a des dynamiques psychologiques et émotionnelles qui sont complètement rien à voir avec le côté maladie du terme psychiatrique, du coup. Leur modèle psychologique de départ, c'est un modèle circulaire, c'est-à-dire que c'est le phénomène, il revient de façon cyclique. L'individu reçoit un défi, une tâche importante, il ressent une anxiété énorme qui le pousse à se surinvestir, donc soit dans un travail excessif, soit au contraire à procrastiner, donc par une peur paralysante de l'action. Le succès arrive et là, il va attribuer des causes externes finalement, on appelle ça aussi des attributions causales externes, c'est-à-dire que ça vient de la chance ou c'est du hasard ou à l'effort démesuré parce que j'ai beaucoup travaillé que du coup j'en suis là. Donc finalement, le succès ne viendrait pas de l'intérieur. La cinquième étape, c'est qu'il renforce la croyance que je ne suis pas vraiment compétent en fait. Et le cycle recommence et on repart à zéro. L'individu reçoit un défi, une tâche importante. Et donc on a un conditionnement cognitif et émotionnel qui s'installe avec une boucle du doute qui devient du coup chronique. C'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est que ça devient chronique. Donc il y a des facteurs, il y a eu plusieurs études depuis, vous le pensez bien, 1978, on ne s'est pas arrêté à ça. Aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, c'est une distorsion de la mémoire émotionnelle, c'est-à-dire que notre cerveau n'enregistre pas les preuves de la compétence et des facteurs de la réussite, mais il archive seulement les risques à être reconnus comme compétents. Le syndrome de l'imposteur, c'est la conviction persistante de ne pas mériter ses succès malgré des épreuves objectives de compétences et accompagnée de la peur d'être démasqué. C'est surtout ça, comme un menteur, un fraudeur, un imposteur.
Voilà. Alors que finalement, on ne l'est pas forcément, voire pas.
Alors, tu vas voir, spoiler, je vais te donner l'antidote et un autre effet sur lequel on va revenir un peu plus tard. C'est l'effet Dunning-Kruger, j'espère le dire bien. Et je vous en parlerai un peu plus loin dans l'émission. Mais effectivement, je vous en dis pas plus. De suite, on va aller dans ton corps, on va aller identifier et reconnaître rapidement. Je vais vous donner toutes les astuces pour le reconnaître, ce syndrome.
Dans DTC, on ouvre aussi la porte à ton physique.
La porte à cette idée, mes filles !
Place à la session dans ton corps sur Pontac Radio. Pontac
Radio. Alors c'est bien, ce syndrome, on en parle, on sait ce que c'est, mais l'idée c'est que vous puissiez rapidement reconnaître et identifier dans votre quotidien. Pour ça, moi j'adore les observables, c'est ces signaux faibles du syndrome qui vont avoir comme... en tout cas, on va pouvoir les voir et les rendre visite si on se pose dessus. Attention, c'est pas magique, c'est pas hop, le syndrome de l'imposteur, coucou, j'arrive avec une cape. Non, faut amener son attention dessus pour vraiment s'observer en train de faire ou en train de se parler ou en train de minimiser finalement sa réussite. Du coup, l'intérêt, c'est de... Alors, je suis partie des 5 profils classiques du syndrome de l'imposteur qui sont décrits par Valérie Young, qui elle aussi était une psychologue et chercheuse américaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes principalement qui se sont intéressées au syndrome de l'imposteur. Mais les hommes, ils sont aussi concernés par ce syndrome. Vous allez imaginer un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, c'est le syndrome de l'imposteur. Et de ce tronc d'arbre, il y a 5 branches qui partent. D'accord ? La première branche, c'est finalement le côté perfectionniste. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet, puisqu'on a fait une émission il y a 15 jours. Je vous renvoie vers le replay, enfin vers le podcast. Et en gros, la branche, c'est si ce n'est pas parfait, c'est nul. Voilà, on va commencer à se dire cette pensée. Si c'est pas parfait, c'est nul. J'aurais pu mieux faire. Il manque quelque chose. On va se rendre compte que ce n'est pas assez bon. Ça, c'est les pensées qui vont arriver. Alors là, spoiler, vous êtes dans le syndrome du perfectionnisme et donc aussi, par définition, de l'imposteur. Les comportements que vous allez pouvoir observer, c'est passer trop de temps sur les détails, repousser l'échéance, ressentir de la gêne à recevoir un compliment. Oui, mais tu comprends, c'est parce que... Alors là, vous rentrez dans... clairement le syndrome. Et l'indice corporel, ça va être des tensions musculaires, notamment au niveau du cou, surtout, parce que ça passe pas de la tête au corps. Des sensations d'insatisfaction chronique après avoir fini une tâche, c'est-à-dire, ouais, bof, voilà quoi. Voilà. Donc là, le repérage rapide, ce n'est pas encore assez, et du coup, tu travailles sans fin. Donc dès que vous voyez travailler en continu, sans vous arrêter, et que vous trouvez que c'est jamais assez, oula, posez-vous 2 secondes. Et
derrière, il y a un risque de burn-out aussi.
Il y a des risques, on va le voir après dans l'impact sur la suite, mais effectivement, il y a des gros risques. La deuxième branche de l'arbre, ça serait l'expert. Je ne peux pas me considérer compétent tant que je ne sais pas tout. Je ne maîtrise pas assez, il me manque une formation, une certification, une lecture avant de me lancer, donc je vais relire lire constamment mes notes. Je vais collectionner les formations, les podcasts, les livres sans passer à l'action. Je vais éviter de parler d'un sujet tant que nous n'avons pas toutes les réponses. On va surévaluer la connaissance des autres. Du coup, on va avoir de l'agitation, du stress. Quand quelqu'un te pose une question dont tu n'as pas la réponse, plutôt que de dire je sais pas, tu vas être stressé, tu vas essayer de te justifier. Tu vas monter, voilà, il va y avoir de la chaleur aussi. Bref, le repérage, c'est je ne suis pas encore prêt et je ne sais pas tout. Tu apprends encore et encore sans agir. La troisième branche, c'est le génie naturel. C'est-à-dire, si c'est difficile, c'est que je ne suis pas fait pour ça. Voilà. Donc, si j'étais vraiment douée, ben, je n'aurais pas forcé autant. Je ne devrais pas avoir besoin d'aide. Du coup, vous allez avoir tendance à abandonner naturellement ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous comparer à ceux pour qui ça a l'air facile. Vous allez ressentir de la honte. Vous allez galérer. Vous allez soupirer. Soupirer, oui. Soupirer, ça se dit.
Soupirer en espagnol, peut-être.
Soupirer, c'est ça. Vous allez avoir des crispations, l'envie de tout plaquer, de partir loin. Bref, voilà. Dès qu'il faut apprendre, vous doutez parce que ça devrait être facile. Vous abandonnez dès que ça bloque plutôt que de persévérer. La branche du soliste. Si je demande de l'aide, c'est que je suis incompétent. Voilà, je dois prouver que je peux y arriver seule. Demander, c'est montrer ses failles finalement. Donc je vais refuser les offres d'aide, même quand je suis débordée, perdue ou que je n'en peux plus. Je vais porter des projets seule, quitte à m'épuiser. Je vais valoriser l'autonomie au détriment de la collaboration. Bref, je vais avoir la gorge serrée quand quelqu'un me propose de l'aide. Je vais avoir des difficultés à respirer. Bref, quand tu te dis non, t'inquiète, je gère, alors que tu es en train de couler, je dois y arriver seul, et bien tu refuses l'aide. Et là, c'est un repérage hyper précis. Et la dernière, c'est la branche du super-héros. Si je ne donne pas 200%, je vais décevoir tout le monde. Je dois tout faire et tout bien faire. Si je ralentis, je perds ma valeur. Je vais m'imposer des horaires et des charges de travail inhumaines. Je vais dire rarement non. Je vais sentir coupable quand on n'est pas productif. Bref, j'ai le cœur qui s'accélère au repos. Je vais avoir des difficultés à déconnecter. Et c'est là où il y a la fatigue chronique, le burn-out déguisé en productivité. Bref, tu es épuisé mais incapable de t'arrêter. Et tu vas te dire, je dois tout gérer. Et je vais être dans une surcharge du planning en fait. Le planning, il est tout le temps blindé. Ça, c'était vraiment la partie la plus importante pour moi en termes de repérage du syndrome de l'imposteur. Ce sont des clés très concrètes. Maintenant, on va voir comment on peut dégommer les croyances qu'on a relevées à l'instant.
Ils ne veulent pas qu'on devienne des héroïnes. Ils ne veulent pas qu'on devienne quelqu'un.
Dans DTC, nous, oui. Et c'est en faisant le tour de tes croyances limitantes qu'il est possible de faire tomber les chaînes.
Get back on your life, bordel de shit!
Alors, là, on va hacker nos cerveaux et désamorcer les croyances qui nourrissent cet imposteur intérieur. On va procéder avec ce que j'appelle la méthode du coach en performance mentale. La première étape, c'est d'identifier la croyance racine, donc celle dont on a parlé juste avant, désamorcer la logique et la preuve, et ensuite, on va installer un nouveau pattern mental. Ce qu'on appelle un pattern mental, c'est une phrase d'ancrage ou une question de recadrage qui permet d'aligner ce qu'on veut à ce qu'on se dit finalement. Donc pour le perfectionniste, je vous rappelle que c'est « si ce n'est pas parfait, ce n'est pas valable ». L'idée, c'est que tu puisses dégommer cette croyance. Déjà, c'est neurofaux. Ton cerveau, il apprend par l'erreur. Ensuite, c'est contre-productif. La quête de perfection retarde la mise en action. Ton système du coup dopaminergique, c'est le système de récompense, il reçoit plus de feedback et donc tu restes bloqué dans la frustration. Et la vérité, c'est que personne ne retient ce qui est parfait. On se souvient de ce qui est vivant et en mouvement. En gros, là, l'idée, c'est de créer un nouveau pattern. Donc, par exemple, je choisis le progrès, ça vaut mieux fait que parfait. Finalement, il vaut mieux que ça soit fait que parfait. Et une question de recadrage, si c'était simple et léger, ça ressemblerait à quoi? Lorsque je suis perfectionniste, cela signifie que je rejette l'erreur. Est-ce que je suis prêt à m'autoriser à faire une erreur? Vous voyez un peu la démarche qu'il faut avoir. Donc, vous prenez la croyance, vous la dégommez avec des faits concrets, vous établissez un nouveau pattern, donc une nouvelle phrase d'ancrage qui va vous permettre de passer à l'action plus efficacement. Et ensuite, il y a des questions à se poser, des questions qui permettent l'ouverture d'esprit. Okay ? Donc là, je ne vais pas aller plus loin, je ne peux pas pouvoir décomposer ici. C'est d'ailleurs, l'idée, c'est aussi de vous montrer que c'est ça qu'on fait dans un coaching émotionnel et mental, c'est qu'on va venir déconstruire les croyances ensemble. Mais comme ça, vous avez au moins la démarche. On va aller dans ta liberté, l'effet Dunning Kruger, un antidote efficace. Et là, normalement, ça devrait vous aider.
Santé, travail, relations, ambition et argent, autant de thématiques qui participent à la surchauffe de notre cerveau.
Vous m'avez traité d'abruti ?
Oui.
Je pratique les arts martiaux. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais.
Ce soir, DTC te fait sortir du cadre pour revenir à toi. En exclusivité sur Pontac Radio.
Eh ben tire-toi alors.
Alors, l'effet Dunning-Kruger, c'est ce phénomène fascinant où plus tu es incompétent dans un domaine, plus tu crois savoir. Et inversement, plus tu deviens compétent, plus tu doutes. Je refais. C'est plus tu es incompétent dans ce domaine, plus tu crois savoir. Et inversement, plus tu deviens compétent, plus tu doutes. Ce qui fait que ça annule le syndrome de l'imposteur en 5-5. Moi, dès que j'ai le syndrome qui arrive, je me dis, attends, en fait, là, clairement, si t'es dans le syndrome de l'imposteur, c'est que finalement, t'es compétent. Parce que celui qui se trouve déjà compétent, jamais il a l'imposture qui arrive. Mmh. Vous voyez l'idée ? Ouais, donc, finalement, ouais. Ça vient annuler le syndrome de l'imposteur.
En tout cas, il y en a qui devraient l'avoir, le syndrome de l'imposteur.
Ouais, moi, par exemple.
Non, pas toi. Non, mais il y a des gens qui n'ont aucune compétence, mais qui revendiquent des trucs.
C'est exactement l'effet de Dunning.
Ouais, c'est ouf.
Kruger, c'est ça. C'est un effet qui a été identifié en 99, donc c'est pas si vieux que ça, par deux psychologues américains. Cette fois-ci, c'est des hommes, David Dunning et Justin Kruger, de l'université de Cornell. Ils ont observé un phénomène fascinant. Du coup, les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que les experts ont tendance à sous-estimer leur niveau réel. Et leur étude, qui est plutôt originale, elle portait sur des tests d'humour, de grammaire et de logique. Et le résultat, c'est que les moins performants étaient les plus confiants. C'était paradoxal, mais reproductible du coup. Pourquoi c'est puissant ? Il y a une autoconnaissance qui est biaisée. Si tu ne sais pas ce que tu ignores, tu ne peux pas apprendre efficacement. C'est logique. Impact social, c'est surconfiant. Les surconfiants prennent souvent la parole, ils influencent, voire ils dirigent des décisions importantes, on nommera personne ici, même avec des connaissances limitées. c'est vrai, je rentre pas là-dedans. Cycle d'apprentissage, vous avez compris. Cycle d'apprentissage, tant que tu es dans la surestimation, tu n'as pas conscience de ce qu'il te manque pour progresser et tu restes bloqué. Et le double effet, c'est que les experts peuvent freiner leur action par excès de doute et les débutants peuvent se lancer trop tôt. Et là aussi, il faut faire un petit peu attention. C'est un effet puissant parce qu'il touche la perception de soi, le leadership. Et d'ailleurs, on a rendez-vous le 30 novembre pour une émission spéciale sur le leadership. Ça touche aussi la performance partout où tu évalues, où tu t'évalues compétent et où tu évalues la confiance. Comment l'utiliser cet effet Kruger de façon très simple ? Une auto-évaluation honnête, on l'a vu un peu plus haut dans l'émission. Cherchez du feedback extérieur régulier. Notez ce que vous savez et ce que vous ignorez consciemment. C'est-à-dire faire le point véritablement sur ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Avoir un plan d'apprentissage stratégique. Les débutants peuvent utiliser leur excès de confiance pour se lancer, mais ils doivent structurer leur apprentissage pour éviter les échecs inutiles. Vous pouvez vous appuyer justement sur les experts qui, eux, ont déjà échoué. Ça, c'est une astuce que j'utilise personnellement hyper souvent. La gestion des équipes et des influences aussi, c'est-à-dire identifier qui surestime et qui sous-estime ses compétences, ça pourra vous permettre de mieux répartir les responsabilités. Le mindset personnel aussi, transformer la surconfiance en curiosité et le doute en motivation. Si je doute, c'est que je commence à comprendre la complexité et si je suis trop sûre, c'est que je dois encore apprendre, finalement. Okay ? Donc, l'effet Kruger, il nous rappelle que la perception de la compétence n'est jamais neutre. Ok ? Moi, ce que j'utilise principalement, c'est je mets de la conscience, j'utilise le feedback, c'est-à-dire des retours et des actions qui sont ciblées. C'est le principe, justement, d'un coaching, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà un petit peu cet effet Kruger que moi, j'adore et que j'affectionne particulièrement. Dans ton cul de suite, on va aller voir les cycles de la réussite et comment les utiliser, parce que finalement, c'est ça dont on parle.
Tu en as plein le cul ? Besoin d'une pause pour y voir plus clair ? Dans DTC, on pose ensemble nos derrières pour assurer nos arrières. Et c'est OK. DTC, c'est aussi dans ton cul.
Dans ton cul.
Et c'est en exclusivité sur Pontac Radio.
Et oui, parce que finalement, si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est que vous avez envie de réussir. Sinon, je vois pas l'intérêt de développer un syndrome. La réussite, c'est une montagne qui se gravit au fil des saisons. C'est un cycle et ça passe par 6 étapes clés. Vouloir, croire, décider, pouvoir, savoir et agir. Et là, vraiment, j'insiste sur ces 6 étapes clés de la réussite parce qu'elles sont utilisées par des champions du monde, des sportifs de haut niveau. C'est quelque chose qui est véritable, sur lequel les entraîneurs amènent de la conscience. Chaque étape alimente la suivante et fait grandir ta confiance et ta compétence et aussi ta clarté d'esprit. Vouloir, tout part du désir. Si tu veux pas, t'agis pas. Mais vouloir sans direction, c'est juste de la frustration. Demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment, là, maintenant. Ton désir doit être précis, concret, presque tangible, et si ta demande est floue, ton énergie se disperse et la loi d'attraction ne peut pas fonctionner. Ton cerveau ne sait pas où concentrer ses ressources et tu passes à côté des opportunités. Une astuce, écris ton objectif en détail, visualise-le et note les premiers pas concrets. Plus ton désir est clair, plus ton cerveau aligne attention, action et motivation pour le réaliser. Un vœu, ça s'écrit à la positive. Osez dire « je veux » et non, on vous coupera pas la tête, c'est promis. Vous l'avez ? Tu l'as ?
Je l'ai.
Croire, c'est tu ne peux pas créer ce que tu crois impossible. Nos convictions sont le moteur invisible de nos actions. Le cerveau, il agit pour valider ce qu'il croit, pas ce que tu espères. D'accord ? Donc, si tu veux avancer, ton système de croyance doit devenir ton allié. Pas un saboteur, pas le vilain petit canard dont on ne veut absolument pas parler, le cerveau, gna gna gna. Non, le cerveau, il est utile. Il faut choisir consciemment ses croyances pour y revenir régulièrement. Et c'est une des étapes clés, souvent sous-estimée parce que justement, on aurait tendance à rejeter son cerveau plutôt que vraiment l'intégrer et l'utiliser comme l'outil qu'il est et qu'il est super puissant. Et beaucoup ignorent le pouvoir de la pensée créatrice. L'astuce, c'est le recadrage des croyances, comme on l'a vu un petit peu plus haut. Décider, c'est couper. Décider, c'est couper. C'est dire oui à un chemin et non à tout le reste. Et la plupart des gens stagnent parce qu'ils veulent tout faire, tout expérimenter, tout tester sans renoncer à rien ou sans s'autoriser à remettre à plus tard. C'est pas parce que tu prends pas ce chemin aujourd'hui que tu le reprendras pas d'ici quelques années. Décider, c'est créer un espace clair pour que tes actions aient du poids. L'idée, c'est de se réconcilier avec le vide. Apprendre à accepter l'espace, le silence et le temps entre deux actions. Tout ne doit pas être rempli ou exécuté immédiatement. Il faut accepter que certaines opportunités arrivent au moment où tu es réellement prêt. Le pouvoir, c'est le moment, attention on parle de pouvoir, c'est le moment où tu réalises que les ressources étaient là depuis le début, d'accord ? C'est pas le pouvoir dans le sens avoir la main mise sur quelqu'un, ça c'est une croyance et qui est erronée et qui peut vous limiter d'ailleurs. Il faut entendre le pouvoir par je suis compétent, je peux avoir des expériences, je suis résilient, j'ai de l'énergie. Le pouvoir c'est pas une autorisation que le monde te donne, c'est une autorisation que tu t'accordes à toi-même. Une des astuces c'est de regarder ce que tu as déjà accompli et utilise-le comme un tremplin, un prolongement et pas comme une excuse pour douter. C'est l'étape finalement de l'enfant intérieur. Où en es-tu avec ta culpabilité ? Car elle devient une clé pour sortir du syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Donc utiliser son passé comme un tremplin pour pouvoir avoir un prolongement de son potentiel. Le savoir. Ici, il s'agit de dissocier le savoir académique du savoir expérimental. Tu peux lire tous les livres du monde, suivre toutes les formations, mais le vrai savoir, il naît dans l'expérience vécue. C'est le moment où tu formes, tu expérimentes, tu échoues, tu ajustes. Bref, tu passes de « je crois que je sais » à « je sais parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté ». Donc là, l'idée, c'est de revenir et faire confiance à ces émotions qui sont des informations précieuses à écouter pour pouvoir agir en fonction de comment tu te sens et transformer l'émotionnel parce que souvent si tu n'agis pas par exemple si tu veux être je sais pas moi météorologue mais que tu as été frustré dans l'enfance avec les maths et que du coup tu as peur des maths et du coup tu t'autorises pas à être météorologue parce que pour toi il y a des maths et que du coup tu te crois nul en maths. Bref, il y a un facteur émotionnel sur lequel il faut venir mettre de la conscience. Et enfin agir, c'est le moment où tu passes à l'action, tu bouges. C'est pas parfait, c'est pas toujours toutes tes certitudes, mais c'est concret en fait. T'as pas voilà. Chaque action relance le cycle et ça nourrit ton savoir, ça renforce ton pouvoir, ça solidifie tes croyances. L'action transforme la théorie en expérience, le potentiel en résultat et l'intention en impact réel. Et pour ça, il faut clarifier son intention. Donc, rappelez-vous, revenez à pourquoi j'agis, pourquoi je fais ça et je donne du sens à mon action du coup. La réussite, c'est pas tout maîtriser, c'est apprendre à traverser chacune des étapes le plus fluidement possible pour avoir des résultats visibles, quel que soit le domaine de votre réussite. Et on va aller dans ton quotidien maintenant, on va comparer certains syndromes les plus courants pour pouvoir un petit peu mieux comprendre Voilà, il faut savoir à quoi on s'attelle finalement.
Ils ont reçu un appel. D'après eux, il y a des problèmes chez nous.
Parfois, les autres te feront croire que tes choix ne sont pas les bons.
Tout va bien, ils ont simplement pas l'habitude de voir des gens aussi beaux que nous.
Dans ton quotidien,
tu vas franchir une nouvelle étape. C'est pas seulement toi que tu vas représenter.
Non, c'est tous ceux qui, comme toi, vont
changer le monde.
Tu vas leur montrer ce que t'as dans le ventre ?
Alors là, je vais vous délivrer une pépitasse, parce que ça, c'est clairement ce que j'utilise moi en séance individuelle pour déterminer où en sont les gens par rapport à leur réussite. Donc là, c'est un élément clé. C'est les différents syndromes. Là, je les ai classés. Donc, il y a les syndromes liés à l'estime de soi et à l'identité. Là, j'en sors quatre. Le syndrome de l'imposteur, donc le sentiment de ne pas mériter ses succès et la peur d'être démasqué dont on a parlé aujourd'hui. Le syndrome du perfectionnisme, du coup, que je vous renvoie vers l'émission d'il y a 15 jours, c'est un besoin excessif de performance parfaite avec la peur de l'échec. Le syndrome du super-héros, le besoin de tout gérer et de tout réussir, même au prix de son bien-être et de sa santé. Hashtag j'ai bien connu le syndrome du super-héros. Le complexe de supériorité et ou d'infériorité, où là on va surestimer ou sous-estimer on va se sous-estimer ou se surestimer par rapport aux autres. Donc ça, c'est les quatre qui sont en lien avec l'estime de soi et l'identité. C'est important parce que finalement, des fois, on bloque sur que le syndrome de l'imposteur. Et pareil, tu bloques sur un truc, c'est pas ça en fait. T'es peut-être même pas concerné par le syndrome de l'imposteur. Pour ça, l'importance de connaître les autres. Le syndrome lié à l'anxiété et au stress. Donc là, on en a trois. On a le syndrome de stress post-traumatique, où là, on a des réviviscences persistantes d'un traumatisme. Par exemple, je sais pas... un accident. Et du coup, à chaque fois que vous prenez la voiture, vous avez tendance à stresser. Le syndrome de l'anticipation anxieuse, ça c'est la peur excessive d'événements futurs, la rumination constante. Vous êtes plus dans le futur que dans le présent. Le burn-out et l'épuisement professionnel avec de la fatigue chronique physique et mentale liée au surinvestissement. Ensuite, on a les syndromes liés aux comportements sociaux, syndrome de l'abstention sociale, la phobie scolaire, je la mets dedans quand il s'agit des enfants, peur intense du jugement et de l'humiliation en public, le syndrome de Stockholm, qui est un attachement paradoxal à un agresseur ou un manipulateur, et le syndrome du sauveur, hashtag je suis concernée aussi énormément par ce syndrome, besoin compulsif d'aider ou de contrôler les autres. Alors pas dans le contrôler, mais plus dans l'aider et se rendre utile. Le syndrome lié à la perception et aux émotions, il y en a trois. Le syndrome de Cotard, c'est un syndrome du cadavre vivant. C'est la conviction erronée d'être mort ou inexistant. Donc en gros, j'existe pas, mais qui suis-je, voilà. Le syndrome de Capgras, c'est un syndrome où avec des croyances qu'un proche a été remplacé par un imposteur. Ah oui. Souvent, ça, c'est un peu...
Je ne connaissais pas celui-là, tu vois.
Mais souvent, quand il y a un parent décédé, par exemple, et que tu as une autre personne qui rentre et que ça fait une famille recomposée, il peut y avoir ce syndrome, okay. Par exemple, tu vois. Le syndrome du survivant, et là aussi, la culpabilité après avoir survécu à une catastrophe. Par exemple, je me demande encore pourquoi j'ai survécu à mon cancer et pas à mon beau-père. Mais ça, c'est une culpabilité du survivant, c'est un syndrome. Et les syndromes liés au développement et à la cognition, donc le syndrome de Dreyfus-Cugger, dont on a parlé aujourd'hui, je vous renvoie un peu plus haut dans l'émission. Le syndrome de l'enfant intérieur blessé, avec les fameuses blessures de l'âme, l'impact des traumatismes de l'enfant sur la vie d'adulte, et les syndromes de l'autodidacte frustré, où là c'est la difficulté à se sentir légitime malgré un apprentissage autonome. Voilà un petit peu pour les différents syndromes. Finalement, le message clé de ce soir, c'est que notre valeur n'est jamais définie par ce que nous produisons ou par ce que nous savons. Le syndrome de l'imposteur, c'est qu'un biais de perception et il te fait douter de toi alors que tes compétences et ton impact sont réels. La clé pour en sortir, c'est reconnaître ses forces, un vrai travail sur l'estime de soi, accepter les doutes comme un signal de croissance, transformer tes croyances limitantes et passer à l'action avec clarté et intention pour pouvoir justement modifier cette boucle qui t'enfonce. Dans 15 jours, on parlera de la dépendance affective. On change complètement d'univers, un besoin d'être aimé ou reconnu. Et ce soir, le vrai héros n'est pas celui qui s'épuise à sauver le monde. C'est celui qui apprend à rester vivant pendant qu'il le transforme. Voilà un petit peu la phrase que j'avais envie de vous partager. Bon, elle est forcément liée avec mon histoire, hein, parce que comme je vous le disais, moi, syndrome de sauveuse. Donc, vous êtes tous des vrais héros du quotidien, finalement. Continuez à vous poser des questions, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et si vous êtes là à nous écouter ce soir et que vous avez écouté ce soir, c'est que vous êtes certainement extrêmement compétent. Alors foncez, allez-y, le monde a besoin de vous, a besoin de tout ce que vous avez à leur apporter, quelle que soit la forme que ça prendra avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme d'ailleurs, etc., etc. Nous, on est là tous avec vous. Dites-nous un petit peu aussi, faites-nous votre retour. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous y voyez plus clair? On se retrouve dans 15 jours pour la dépendance affective.
Prêt à attaquer la semaine du bon pied?
Ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois.
Tu en veux encore? DTC sera bientôt de retour pour booster ton énergie et continuer d'avancer.
Je vois un type
fort, fort, fort. Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas.
On lui marche sous les pieds.
En attendant, pour réécouter l'émission, direction le podcast sur pontacradio.fr.
Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.